France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Fanny Richer, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Jérémy Kaufmann. Tout l'été, Donald Trump a fait les marchands de paix. Nous parlions hier de la pacification par les armes qu'il projette au Moyen-Orient. Aujourd'hui, son parrainage du traité signé en juin entre les gouvernements rwandais et congolais, Rwanda-RDC, un accord hors sol.
Les civils du Kivu ont connu trop de guerres, trop de combats et trop de morts. Un nombre incalculable d'entre eux a dû fuir et des milliers d'autres ont perdu la vie. Mais aujourd'hui, avec ce traité, la violence et la destruction touchent à leur fin. La région entière ouvre un nouveau chapitre d'espoir, d'opportunité, d'harmonie, de prospérité et de paix.
Le Rwanda est prêt à travailler avec la RDC pour tenir nos engagements communs. Pour conclure, permettez-moi d'exprimer une nouvelle fois les remerciements du Rwanda à tous ceux qui ont contribué à cette étape importante.
Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri, et de toutes les localités martyrisées par la guerre.
Dans un livre de Jean-Paul Dubois, le narrateur s'assied devant la télévision et regarde comment s'y prend l'Amérique pour embobiner le monde. Altération de la réalité, malversation sémantique, dissimulation des morts. Ces gens d'outre-Atlantique, écrit-il, avaient fait de l'image un miroir mensonger qu'ils pouvaient déformer à leur guise en fonction de leurs besoins. Si demain cela s'avérait nécessaire, la guerre comme la paix pourrait être menée dans un verre à dents. Et c'est un peu ce qui s'est passé en juin à Washington, quand sous le crépitement des flashs, Donald Trump a salué le traité merveilleux tout juste signé entre les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, pendant que les civils du Kivu dans l'est de la RDC continuent à compter leurs morts. Quelques jours plus tard à peine, des combattants du mouvement M23, soutenus par le Rwanda, exécutaient de sang-froid 140 personnes non loin du parc des Virunga, tandis que les FDLR, milices sur lesquelles s'appuie le Congo cette fois, commettaient leur lot d'exactions. Entre l'autosatisfaction célébrée à Washington et les enterrements qui suivent chaque massacre, la vérité est sous terre. Si la paix proclamée par Donald Trump est donc pour l'instant une paix sans conséquence sur la réalité de la vie des civils, elle n'en demeure pas moins intéressante pour les États-Unis qui entendent bien en profiter pour prendre pied économiquement et sous terre aussi, en République démocratique du Congo, dans les mines, comme au Rwanda. Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendante, notamment pour Reuters, ancienne correspondante en République démocratique du Congo. Nous devions être en ligne depuis Nairobi avec Onesfor Sematumba, chercheur senior pour International Crisis Group, que nous n'arrivons pas à joindre, mais nous ne désespérons pas si vous nous entendez depuis le Kenya. Onesfor Sematumba, nous souhaitons vous contacter. Voilà, d'abord, quand et pourquoi, Sonia Rollet, Donald Trump a-t-il commencé, à votre connaissance, à s'intéresser à ce conflit dans le Kivu, qui dure depuis 30 ans, avec une résurgence armée et meurtrière en 2022, quand le M23, le mouvement dit du 23 mars, a de nouveau fait usage de ses armes dans cette région de l'est du Congo. Tout a commencé, pour Donald Trump en tout cas, par une lettre que le président américain a reçue sur son bureau.
Oui, effectivement, c'était une lettre du président Tshisekedi. Alors, il faut remettre un peu le cadre du début de l'année. La rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, avec l'armée rwandaise à ses côtés, prend Goma et Bukavu, donc deux des grandes villes de l'est de la RDC, donc les principales villes des Kivu, et l'armée congolaise est en débandade et fuit avec son allié, l'armée burundaise, fuit avec les milices qui les accompagnent. Donc vous avez parlé des FDLR, il y a aussi les groupes armés congolais Wazalendo, et donc on se retrouve vraiment avec une situation où il y a un peu de résistance à Goma, il y en a pas à Bukavu, et on les voit s'approcher, avancer, notamment vers des zones minières. Mais même avant ça, quand les deux villes tombent, Félix Tshisekedi décide d'écrire à Donald Trump et de tenter un peu le tout pour le tout. C'est pas le premier contact qu'il tente, il y avait déjà des émissaires qui étaient partis depuis plusieurs semaines, mais avec cette lettre, il propose au président, clairement, un échange entre minerais et sécurité.
Donc sécurité contre minerai ou vice-versa.
Voilà. Et exactement. Donc on est vraiment sur un accord de ce type qui est proposé. Au début d'ailleurs, les Américains ne sont pas très réceptifs. Je me souviens d'avoir parlé avec pas mal de diplomates, aussi des gens à Washington qui me disaient mais non, surtout qu'en fait, il y avait plus d'un émissaire qui s'était rendu sur place. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi avait tapé du poing sur la table à un moment et cessé toutes ces négociations parallèles qu'il y avait avec différentes instances parce que ça commençait à créer de la confusion et les Américains ne comprenaient pas ce qui se passait. Et surtout, les Américains ne voulaient surtout pas s'engager dans le conflit. Donc, la première chose qui a été dite ou répondue à la RDC, ça a été « Nous ne viendrons pas militairement vous aider au Congo ». Et ça a vraiment commencé comme ça. Là où les choses se sont, on va dire, un peu plus accélérées, c'est quand les rebelles et l'armée rwandaise se sont approchés d'un territoire et d'une ville qui s'appelle Walikale. Et à côté de cette ville, non loin, il y a une mine, Alpha Mine, qui avait un actionnaire américain et qui produit de l'étain. Et là, à ce moment-là, les choses ont un peu changé parce que ça a mis ce conflit, en tout cas, de manière plus aiguë sur la table de Donald Trump.
Et Félix Tshisekedi imaginait bien que cela intéresserait aussi Donald Trump que de lui rappeler que les intérêts américains sont en jeu, même s'ils sont loin d'être les premiers sur le territoire. On y reviendra tout à l'heure avec Christophe Lebec. Il se trouve que nous avons retrouvé Onesphore Sematoumba. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, merci d'être avec nous, on est content de vous entendre. Vous êtes chercheur senior pour International Crisis Group, vous êtes en ce moment à Nairobi au Kenya. Alors avec Sonia Rollet, on a rappelé le contexte dans lequel Donald Trump a reçu sur son bureau en février à la Maison Blanche une lettre de Félix Tshisekedi, février 2025. C'est aussi intéressant de noter qu'on était dans un contexte de discussion à l'époque entre Donald Trump et l'Ukraine pour un accord minier. Les discussions patinaient et sans doute que le président congolais s'est dit qu'il avait une carte à jouer. Est-ce qu'il pensait, d'après vous, que les États-Unis pouvaient aller jusqu'à intervenir militairement? Est-ce qu'il le souhaitait?
Bon, écoutez, je pense que les États-Unis, notamment Trump, n'étaient pas aussi naïfs que le gouvernement congolais ou Tshisekedi, au point de s'imaginer qu'ils allaient larguer de GIs dans les forêts de l'est du Congo. Bon, mais par contre, le gouvernement américain et Trump en tête, donc, ils avaient un intérêt évident, et ça, vous venez de le dire, de s'affirmer comme la puissance, la puissance pacificatrice, c'est-à-dire, après avoir essayé avec les succès qu'on connaît, de résoudre la question ukrainienne vis-à-vis de la Russie, après avoir tenté même d'apaiser l'incendie entre le Hamas et Israël, bon, eh bien, la RDC s'offrait comme un champ beaucoup plus facile pour Trump de montrer sa force et sa puissance, et en même temps, et pour lui c'est important, cela permettait aux entreprises américaines de mettre les pieds dans cette partie du Congo très très riche en minerais. Et malheureusement, et ça c'est peut-être dû à l'ignorance des Américains du contexte de cette guerre, eh bien, les minerais qui sont à l'est du Congo, dans la partie aujourd'hui disputée, sont justement inaccessibles pour des raisons de sécurité, ou plutôt d'insécurité.
La mine de Rubaya.
Après, je sais que maintenant...
Oui, Pardon, la mine de Roubaïa, par exemple, d'où est extrait 15 à 30% du coltan mondial, est exploitée aujourd'hui par le M23, ce groupe armé. Sonia Rollet, quel radar ou poste d'observation les États-Unis ont-ils dans la région? Est-ce que Washington connaît bien cette région, l'Afrique des Grands Lacs?
Alors, connaître bien, c'est-à-dire, bon, il y a des diplomates qui connaissent, ça c'est sûr, c'est évident que quand même, ils ont des contacts. Est-ce que la diplomatie américaine, dans ce cadre, avait bien compris l'ensemble des enjeux ou saisi la complexité de la situation? C'est sûr que Roubaïa, c'est de la richesse, mais on est sur une mine qui est artisanale, où en fait, on a des problèmes aussi de conflits ethniques entre des populations, donc il y a des tensions depuis très longtemps. On a toujours eu des problèmes de traçabilité, il y a toujours eu des groupes armés, donc quand c'est pas le M23, c'est d'autres groupes armés qui sont là. Donc c'est vrai que de s'imaginer, et c'est quand même ce qu'ils se sont imaginés, c'est qu'à un moment, faire la paix entre le Rwanda et le Congo, ben, on allait industrialiser Roubaïa, mettre un terme à ces conflits, industrialiser Roubaïa, exploiter, aider le Congo à exploiter ses minerais sur place, et peut-être les transformer au Rwanda. Ça, c'était un peu le schéma qu'ils avaient en tête. Et pourquoi? C'était aussi parce qu'il y avait cette mine, Alpha Mine, sur laquelle il y avait un actionnaire américain qui était là, qui avait fait ce travail, mais qui avait mis 10 ans, 15 ans à faire ce travail, et dans une complexité quand même importante, où aussi il y avait des groupes armés sur place. Or, même sur cette mine-là, donc quand ils ont fait donc tous ces efforts pour essayer d'obtenir l'accord de paix, la fameuse mine qui avait un actionnaire américain et pour lequel ils ont stoppé l'avancée du M23, eh ben en fait, l'actionnaire américain a vendu aux Émirats arabes unis, voilà. Et donc même là-dessus, ils semblaient pas être complètement informés de ça. Alors que c'était quand même dans l'air déjà depuis un moment que l'actionnaire américain voulait vendre.
Et même s'il y a de grosses ambassades à Kinshasa en République démocratique du Congo, à Kigali, au Rwanda, Donald Trump n'est pas connu pour faire appel au temps long de la diplomatie. Il s'est appuyé pour ce dossier-là, Onesphore Matumba, sur un homme qui s'appelle Massad Boulos, à qui il a confié le poste de conseiller spécial du département d'État pour l'Afrique. Qui est-il, Massad Boulos? D'où vient-il?
Bon, voilà, Massad Boulos, il est tout sauf un diplomate, en fait. Voilà un homme qui est plus connu dans les business, qui a fait son chemin dans diverses affaires au Nigeria, donc en Afrique. Il connaît l'Afrique des affaires avant d'aller s'installer aux États-Unis. Donc, il est d'origine libanaise. Hein. Et là, aux États-Unis, il n'est pas qu'un simple citoyen américain, parce qu'il fait partie de la famille de Trump. Son fils a épousé une fille de Trump. Donc, c'est cette relation à la fois d'affaires et de famille qui a prévalu plutôt que le tact diplomatique. Et donc, c'est pour cela qu'on a vu cette médiation au forceps, à marche forcée, qui brûlait franchement tous les protocoles diplomatiques. Donc, c'est la première fois, depuis que je suis les questions de diplomatie, par exemple, qu'un médiateur pose ses propres intérêts économiques directement sur la table, donc notamment les intérêts miniers. Donc ils disent, bon, écoutez, vous allez vous entendre, on va mettre en place un dispositif d'intégration économique qui va fonctionner d'ici 3 mois, mais vous devrez travailler avec les entreprises américaines. Donc ils font comme ça, donc laissant de côté, par exemple, quelqu'un d'un peu plus diplomate.
Plus que quelqu'un de plus diplomate que lui, c'est vraiment un homme d'affaires. Il a vendu des pièces détachées pour le secteur automobile, notamment au Nigeria, ce qui fait dire à Donald Trump que c'est un fin connaisseur du continent africain. C'est donc lui qui a coordonné les discussions et encadré la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, accord signé en juin à Washington et dont s'est félicité Donald Trump.
It's been a long time waiting. I said, how long has the war been going? And
Ça fait si longtemps qu'on attendait cet accord de paix. D'ailleurs, depuis combien de temps cette guerre dure-t-elle? Un de mes amis qui est très concerné par le conflit au Kivu m'a dit qu'il durait depuis 30 ans et qu'il avait fait au moins 6 millions de morts. C'est incroyable. Et quelqu'un d'autre m'a dit qu'il s'agissait de la guerre la plus meurtrière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une honte, mais nous allons y mettre fin.
Alors que Donald Trump se soit saisi du dossier parce qu'il a compris que c'était une guerre qui durait depuis très longtemps et qui faisait beaucoup de morts, c'est une chose. Mais comment a-t-il convaincu Sonia Rolet, le Rwanda, de prendre part à la discussion? Parce que pour le Rwanda, accepter de prendre part à ces négociations, ça revient à reconnaître qu'il est bien lié au M23, ce qu'il a très souvent nié.
Alors oui, mais en même temps, le Rwanda était déjà dans des discussions, en fait, et avait été dans des discussions jusqu'en mars, jusqu'au moment où, en fait, le début des négociations avec les Américains se font. Il y a un autre processus qui est en cours et qui est lancé par l'Angola, donc Luanda, le président João Lourenço, qui était arrivé aussi à faire signer un accord entre le Rwanda et le Congo à l'époque, au niveau des ministres, et un accord qui prévoyait le retrait des mesures de défense, parce que le Rwanda le présente comme ça, elle n'est pas, son armée n'est pas au Congo pour aider le M23, etc., mais serait là pour lutter contre les rebelles hutus rwandais des FDLR, dont certains ont participé au génocide de 1994. Et donc le Congo devait s'engager à lutter contre cette milice ou ce groupe armé qu'il est accusé de soutenir et qui est dans sa coalition selon l'ONU. Donc ce système était déjà en place, ça avait déjà cette idée-là. Le seul problème qu'il y avait entre les deux pays, c'était que le Congo refusait de négocier avec le M23. Au moment où le M23 et le Rwanda prennent ces deux grandes villes de l'Est, le Congo finit par accepter de s'asseoir à la table avec le M23 et à ce moment-là, le M23 a d'autres conditions et demande plus, et notamment la levée des sanctions qui commencent à lui tomber dessus à cause du fait qu'il ait pris ces deux villes. Donc il y avait tout ce processus qui était là. Là-dessus, le processus est complètement dépossédé. L'Angola se retrouve dépossédée du processus puisqu'il y a deux nouveaux acteurs qui se mettent en place, non seulement les États-Unis mais aussi le Qatar. Le Qatar qui va être d'ailleurs le pays qui va faire la rencontre entre Paul Kagame, le président du Rwanda à ce moment-là, et Félix Tshisekedi qui refusaient eux de se voir en Angola. Et s'il y a autant de possibilités pour à la fois les États-Unis ou pour le Qatar de faire des pressions sur le Rwanda, c'est parce que ils sont très liés économiquement et que donc on considère que ces deux acteurs, deux partenaires importants du Rwanda et qui l'aident en termes budgétaires, puisque le Rwanda reste quand même un pays qui est pauvre.
Alors s'il y a déjà un processus dit de Luanda qui est en cours, qui a déjà été négocié d'ailleurs en novembre 2024 et signé par les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais il y a donc moins d'un an, qu'est-ce que cet accord, supervisé cette fois-ci par les États-Unis, apporte de nouveau Onesphore et Matumba? Déjà rien que le fait qu'il ait fait se rencontrer les deux présidents et que tout se passe au niveau des États, mais pas tellement avec les groupes armés. Les groupes armés n'ont pas été invités par Washington.
Oui, effectivement. Donc, je suis tenté de dire que la seule grande différence entre le processus de Luanda et ce qui s'est passé à Washington puis à Doha, c'est que les Qataris et les Américains avaient derrière ont obtenu dès le départ ce que Luanda visé comme étant le signal ou le symbole ultime de la fin de la guerre, c'est-à-dire cette poignée de main entre Kagame et Tshisekedi. Bon, ça a permis un certain dégel, pas dans les relations, mais dans la médiation. Donc là, mais sinon sur le fond, comme Sonia Rolet le disait, en fait, l'accord de Washington a repris textuellement le CONOPS, donc le schéma de la résolution de la crise qui était déjà actée par le processus de Luanda, c'est-à-dire respect de la souveraineté de chacun des pays, ce qui signifiait que le Congo, donc la RDC s'engageait à neutraliser les FDLR, ce qui est une véritable gageure, d'une part, et que le Rwanda, de son côté, s'engager à lever les mesures de défense. Mais ça, c'est sur le papier. Et puis, bon, les deux pays se sont de nouveau engagés pour le respect du cessez-le-feu. Mais comme pour l'Angola, donc comme pour Luanda,
le processus de Luanda,
eh bien Washington, oui, donc maintenant le processus de Washington est aussi en panne. Et la panne du processus de Luanda était due effectivement à ce que Sonia disait tout à l'heure, que Kagame n'a pas voulu honorer le rendez-vous de ce 15 décembre de l'année passée parce que le Congo n'a pas voulu céder à l'injonction de s'engager dans une discussion directe avec le M23, disant que ça, c'était une ligne rouge. Mais depuis lors, la ligne rouge a sauté, évidemment, à cause de la chute de toutes les villes principales de l'Est.
Donc voilà. Le processus de Luanda est en panne, celui de Washington l'est également, et les habitants du Kivu ne s'y trompent pas, notamment dans cette ville de Bukavu, qui est passée sous administration du M23 et que TV5 Monde rencontrait cet été.
On est en train de vouloir signer un accord pour la paix, mais au même moment, les deux parties renforcent leurs troupes sur le terrain. Ça donne quelle impression ? On peut penser à une aventure ambiguë.
Donnez-nous la paix, car on pleure beaucoup. Donnez-nous la paix que nos enfants aient aussi l'occasion d'étudier. Quel est le problème entre nous ? On ne sait même pas quel groupe tire les balles. Nous, les citoyens, on se demande combien de temps encore on va devoir réclamer la paix.
Combien de temps on va devoir encore réclamer la paix, Sonia Rollet ? Est-ce que l'accord signé à Washington précise comment et la RDC et le Rwanda sont censés contribuer à désarmer et convaincre d'arrêter de combattre et les milices FDLR et le M23 qui par ailleurs aujourd'hui administrent vraiment des territoires congolais ? Quelles clés, quels outils cet accord donne-t-il ? Comment comptent-ils s'y prendre ?
Alors en fait, c'est l'un des problèmes de base. Il y a cet accord de paix entre le Rwanda et le Congo, et cet accord de paix qui reprend celui de Luanda, et donc un mécanisme qui était là et qui prévoyait qu'au bout d'un mois, ils mettent en place des opérations. Donc le Rwanda devait retirer ses moyens de défense, donc retirer son armée. Le Congo devait faire ses opérations contre les FDLR. Ils avaient 3 mois pour faire ça. En gros, cet accord ne parlait pas du M23, l'accord de Washington, comme d'ailleurs Luanda ne parlait pas du M23. Et le M23, la question du M23 doit être traitée, elle, à Doha, donc par les Qataris. Il y a des négociations qui sont en cours depuis maintenant assez longtemps. Et en fait, même au départ, la manière dont c'était prévu et dont on comprenait la logique des accords, l'accord à Doha devait être signé avant l'accord, ou au moins un début d'accord à Doha devait être signé avant l'accord avec Washington, parce que effectivement, s'il ne se passe rien du côté du M23, et c'est ce que dit la République démocratique du Congo, s'il ne se passe rien et si le M23 reste dans toutes ces villes, etc., comment eux vont lancer les opérations contre les FDLR, puisqu'il y a des FDLR qui sont dans les zones M23.
Donc les FDLR, on rappelle, ces milices qui sont, cette fois-ci, sur lesquelles s'appuie la République démocratique du Congo dans ces zones-là et qui sont créées par d'anciens génocidaires Hutu.
Donc il y a eu une espèce d'ultimatum qui a été donné. Ils devaient signer un accord de paix donc entre le M23 et la RDC. Il devait y avoir un accord le 18 août. On n'a pas eu cet accord. Depuis, ils sont toujours sur la table des négociations et ils sont encore en train de discuter maintenant. Mais donc il y a tout le système est un peu grippé et on sent que les deadlines sont en train de passer les unes après les autres. Et c'est vrai que c'est ça qui était étonnant dans le fait d'entendre Donald Trump dire ça y est, j'ai fait la paix, même ces derniers jours, ou même je vais ramener les présidents rwandais et congolais à Washington. C'est parce qu'en fait, concrètement, non seulement ils n'ont pas réussi à créer leur propre accord, ils ont été obligés de reprendre un accord de l'an dernier parce qu'ils n'arrivaient pas à faire que le Rwanda et le Congo se mettent d'accord sur un nouvel accord. Mais même en ayant cet accord qui était déjà signé depuis un an, ils n'arrivent pas à faire tenir les deadlines aux différents participants, que ce soit le Rwanda, le Congo ou même le M23.
Mais qui a vraiment cru que cet accord pourrait engager toutes les parties et leur imposer de tenir les délais? Onesphore et Matumba, on rappelle que les combats ont largement repris depuis la signature de cet accord à Washington, que l'ONG Human Rights Watch a notamment documenté, comme on dit aujourd'hui, cette exécution de sang-froid de 140 personnes par les M23 non loin du parc des Virunga cet été. L'ONU, un rapport plus récent, parle également d'exactions et de viols collectifs commis par tous les groupes armés dans ce conflit, quel que soit le pays dont ils sont le plus proches. Le rapport est sorti il y a quelques jours. Qui a cru, et là je parle plutôt des dirigeants africains, congolais et rwandais, que cet accord pouvait amener la paix, puisque le Rwanda, par exemple, a fait ratifier cet accord par son parlement quelques semaines plus tard, et le parlement a voté pour.
Ça, c'est très intéressant, en fait. L'accord de Washington a été applaudi, pas seulement par Trump, mais aussi, par exemple, par le Rwanda, qui l'a fait ratifier, qui l'a fait passer au Parlement, etc. Mais pourquoi? Justement parce que cet accord de Washington, finalement, ne touche pas à la problématique réelle dans cette zone, qui est la problématique de M23. Et pour le Rwanda, c'est d'ailleurs du pain béni, parce que du coup, même si donc nous disions que, écoutez, en acceptant de paraffer cet accord, le Rwanda a reconnu son implication auprès de M23, mais en réalité, en paraffant cet accord de paix avec le Congo, sans reconnaître que le Rwanda lui-même est belligérant, donc il est sorti indemne de la question de M23. Donc du coup, la question de M23 est devenue un problème congolo-congolais qui est en train de se discuter avec toutes les difficultés qu'on imagine au Qatar. Donc, je ne pense pas qu'il y ait ni du côté de Kinshasa, même du côté des acteurs régionaux, l'EAC, SADC, par exemple, qu'il y ait une partie qui a fait foi à l'accord de Washington ni au processus de médiation des Américains. En fait, le principal levier dont disposent les Américains dans cette affaire, c'est leur force, c'est leur puissance qui en inspire, en fait, qui fait peur aux principaux protagonistes de cette crise, donc qui s'engage dans un processus à marche forcée, mais qui décidément n'arrange rien sur le fond. Donc même les M23, par exemple, quand ils disent, écoutez, nous y allons, mais ils disent, il faudra à un certain moment parler des causes profondes de cette crise. Les Américains
ne s'en préoccupent pas. Voilà. Le merveilleux traité salué par Donald Trump ne se préoccupait pas, en effet, des causes profondes du conflit. Cause, d'ailleurs, dont j'en profite pour vous poser cette question, Sonia Rollet, parce que quand on parle, y compris des massacres qui ont eu lieu encore cet été dans le Kivu, quand le Human Rights Watch dénonce ce massacre de 140 civils en juillet par le M23 autour de la ville d'Uvira, elle précise, cette ONG, qu'il s'agit de civils Hutu, donc on continue à ethniciser le conflit. Est-ce que ces précisions sont faites localement dans la presse ou par la société civile? Qui profite de cette instrumentalisation des clivages identitaires, de cette mobilisation à chaque fois des clivages identitaires pour parler d'un conflit qui est aussi beaucoup économique, avec des intérêts miniers, comme vous le rappeliez, en jeu, qui sont énormes?
En fait, ce à quoi on assiste, mais ça c'est historique, hein, c'est que à chaque fois que l'armée rwandaise rentre sur le sol congolais, on va voir notamment que, comme elle est perçue, en tout cas au Congo, comme étant dirigée par des Tutsis, puisque le président Paul Kagame est Tutsi, et bien, on va voir qu'il va y avoir une recrudescence ou une activité qui va être plus importante des groupes Hutu au Congo, qu'ils soient d'ailleurs congolais ou rwandais. Et d'ailleurs, c'est ce que dénonce le Rwanda quand ils disent « Ah, mais les FDLR recrutent, et on a une espèce de coalition entre les FDLR, donc les rebelles Hutu rwandais, certains ont participé au génocide, et les Wazalendo des groupes congolais, et notamment des groupes Hutu congolais. » Donc, on voit une collusion parfois entre les deux, et donc ça, c'est dénoncé. Mais on voit aussi, de l'autre côté, qu'il y a des alliances. On va avoir une alliance entre le Rwanda, le M23, donc certains dirigeants sont de l'armée ou certains militaires sont aussi. Il y a aussi des Hutus, des figures Hutus quand même dans le M23. Et on va voir, par exemple, les Banyamulenge, les milices Banyamulenge, les Twigalaneo, qui sont les Tutsis congolais, qui vont être alliés. Donc, en fait, c'est pas une réalité en fait complète, puisqu'il y a des Hutus des deux côtés, il y a des Tutsis en fait véritablement des deux côtés. On sait aussi que l'armée rwandaise va s'appuyer sur d'anciens FDLR pour faire ses opérations au Congo. C'est ce que nous dit par exemple le groupe d'experts des Nations Unies. Il y a une apparence comme ça de rapport ethnique et c'est très mis dans les discours et quand même ça développe les discours de haine et quand même à la fin ça va finir par faire des tensions ethniques qui sont réelles. Mais la réalité c'est que il y a la politique, il y a l'idéologie et puis il y a la guerre et la guerre se fait de manière beaucoup plus brouillée que ce qu'on peut dire dans les discours.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer par exemple ce qui est en train de se jouer en ce moment dans la ville d'Uvira, donc dans le sud Kivu, puisque ça fait quelques jours maintenant que des organisations de la société civile locale organise des grandes manifestations et des journées mortes pour demander l'éviction d'un général qui s'appelle le général Gassita, en charge de la sécurité de la région, qui vient d'ailleurs de quitter la ville. Pourquoi ?
Alors, c'est un officier Munyamulenge, donc qui est de la même, on va dire, ethnie qui est Tutsi congolais des hauts plateaux. Et donc, effectivement, une partie des alliés du M23 et du Rwanda sont des milices qui sont originaires des hauts plateaux, qui sont Tutsis, etc. Mais on a aussi des officiers de l'armée congolaise qui sont Banyamulenge, donc Tutsis congolais, et qui dirigent les opérations de l'autre côté. Donc à chaque fois, et on a quand même des groupes armés Wazalendo qui vont susciter en fait un discours de haine et qui vont avoir un discours de haine vis-à-vis de ces officiers parce qu'ils vont les considérer comme des traîtres. La réalité, c'est que quand même aussi, c'est une force que d'avoir des officiers qui sont capables de savoir ce qui se passe dans le camp ennemi. Donc c'est pour ça qu'il y a, et le gouvernement congolais quand même répète ça, ils ont d'ailleurs honoré l'un des officiers qui a défendu Bukavu et qui a d'ailleurs perdu sa vie en défendant Bukavu, et qui était Munyamulenge, et il a été honoré au Palais du Peuple, donc au Parlement, et puis et ailleurs, pour mettre en avant justement que ces officiers sont des deux côtés. Mais ça n'empêche pas une instrumentalisation, mais c'est des logiques locales qui répondent aussi à des politiques locales qui se font, et ce discours de haine, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas minimiser le fait qu'il existe, etc. Mais en fait, la réalité du terrain est toujours plus compliquée. Il y a des discours de haine qui sont là, il y a des instrumentalisations de ces conflits ethniques, mais la réalité, c'est que on retrouve que ça soit des Hutus, des Tutsis ou des gens qui sont pro-Hutus et pro-Tutsis de tous les côtés.
Donc une nuance et une complexité qui semble-t-il, en tout cas de votre avis à tous les deux, Sonia Rollet et Onesforce et Matumba, échappent à l'administration américaine et à tous ceux qui se sont aux États-Unis plongés dans ce dossier-là. Est-ce qu'on sait, Onesforce et Matumba, si les États-Unis suivent toujours le dossier ou c'est, voilà, l'accord a été signé à Washington fin juin, c'est bon, tout est réglé et finalement on s'en préoccupe plus du tout?
Non, les États-Unis suivent. D'ailleurs, je pense, oui, le 1er août, il y a eu la première réunion de suivi de cet accord pour constater, j'espère qu'ils ont constaté qu'avant l'accord égale après l'accord, c'est-à-dire que rien n'a changé, sauf dans les mauvais sens, comme vous venez de le dire, pour les cas d'Uvira, parce que maintenant, moi, je vois que Uvira est à un point de rupture. Donc, il suffit de rien pour que cette ville s'effondre littéralement. Donc, elle vient de passer toute une semaine de villes mortes et c'est là qu'il y a cette subtilité entre la position du gouvernement qui peut honorer des officiers venant de telle autre ethnie pour leur bravoure, mais aussi la logique locale incarnée par les Ouazalendo qui sont ces miliciens pro-gouvernementaux, mais qui évoluent en roue libre, qui ne répondent pas à Kinshasa. Et là, je doute que les Américains aient le nez assez fin pour sentir de telles subtilités que les niveaux de pouvoir, les niveaux d'influence sur le terrain ne se trouvent pas forcément là où on les pense, c'est-à-dire au ministère de la Défense ou au ministère des Affaires étrangères. Maintenant, Uvira, par exemple, c'est devenu une enclave chaotique où les populations civiles et les miliciens peuvent s'opposer à la nomination d'un général de brigade par les hauts commandements militaires. Donc, je ne sais pas si les Américains les comprennent.
Mais tout ça, les Américains, comme vous dites, Onesphore et Matumba, finalement, s'en lavent un peu les mains, puisqu'ils ont, d'après eux, obtenu ce qu'ils voulaient, comme le disait Massad Boulos, le conseiller Afrique du département d'État, au mois de juin.
Des négociations pour une coopération minière se tiennent actuellement entre notre gouvernement, le gouvernement congolais, mais aussi les entreprises privées américaines et même des entreprises d'autres pays alliés. Nous discutons aussi avec le Rwanda d'ailleurs. Je sais qu'un certain nombre de compagnies états-uniennes voudraient y investir. C'est pour cela que nous voulons créer un cadre régional de coopération économique pour que nos entreprises puissent investir à la fois dans l'Est du Congo et au Rwanda, pour qu'au Rwanda aussi nous puissions développer une industrie de la transformation et de l'exportation minière.
Alors, est-ce que les États-Unis ont avancé sur l'un de leurs objectifs qui est de placer leur pion pour exploiter des ressources en République démocratique du Congo, Sonia Rollet?
Alors, il y a eu des annonces. Il y a eu l'annonce par Cobold du fait que Cobold, donc cette entreprise américaine, a obtenu un certain nombre de licences d'exploration qui concerne le lithium et pas seulement...
On va en parler dans un instant avec Christophe Lebec.
Aussi. Voilà, mais donc il y a eu des éléments comme ça. Mmh. Il y a le problème, je pense, en fait, dans la logique générale c'est que, et on le voit avec le cas de Wally Calais, par exemple, et d'Alphamine, c'est qu'il y a une logique, une politique américaine d'État, et puis après, il y a la logique des entreprises, où on a vu que, par exemple, dans ce cas-là, bien que cette mine ait été sauvée par les États-Unis, ça quand même clairement, et aussi par l'intervention du Qatar, et que l'avancée du M23 ne s'est pas faite, voire le M23 s'est retiré, et ça c'était une vraie réalisation de ce tandem qatari-américain, eh bien, l'entreprise américaine qui détenait des parts dans cette mine a décidé de vendre malgré tout. Donc il y a ça. Il y a le fait de vouloir ou d'essayer d'obtenir un cadre de négociation et des avantages pour ces entreprises, mais il y a aussi des lois au Congo, il y a le code minier qui est quand même là, qui ne peut pas favoriser forcément les entreprises américaines. Et donc, ils ont des négociations, il y a des annonces de temps en temps, on a vu avec Starlink, par exemple, qui a fait des annonces au Congo pour des accords, il y a eu d'autres petites annonces comme ça. Donc oui, il y a quand même une attention qui s'est portée sur le Congo des États-Unis, mais on n'en est pas encore à cette grande victoire, surtout que l'essentiel des entreprises sont quand même chinoises qui exploitent les mines au Congo.
Et que les mines congolaises sont un filon qui reste difficile d'accès. On en parle juste après cette chanson de Master Bechako, un chanteur congolais né dans le chef-lieu du Sud Kivu, à Bukava. Ce titre est sorti cet été, Solution pour la paix.
Daddy Pro, on the beat.
Chouka Chini, tout a fouté solution. Chouka Chini, tout a fouté solution.
Beaucoup de jeunes à l'aider.
Chouka Chini, tout a fouté solution. Chouka Chini, tout a fouté solution.
Ok, yeah, baviangu, muko babogare. Tenanyi bote muko na la. Hivi munataka juu ya nini, wala shie munatuia nini. Wazo yangu usimbili wala tatu, mie niko tuna wazo moe. Mushuke nyi bote mushuke chini, pamoja mwende tafuta solisyo. Solisyo haitatoka kubarabu, haitatoka Ufaransa, haitatoka Marekani. Solisyo haezi tokea inji. Ya muimu munge ikala pamoja, muonge na lugha moja. moja sababu shibote tuko ba moja ye na mujiulize ni nini na hivi tuko tunafia nini mina waza mutapata solution usijiuwe na shimusi tuwe tutafute pa moja solution nye babogare bazima munataji uwa juu ya bia dunia bandugu mushuke kabisa mushuke tutafute solution.
Solution de Master Véchaco, de son vrai nom Chaco Baboudva. Cette chanson pour la paix rencontre, paraît-il, un très grand succès à Goma et Bukavu. Et non pas Bukava, le chef-lieu du Sud Kivu. Vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série sur la paix en trompe-l'œil, dont se targue pourtant le président des États-Unis, pris d'une frénésie pacificatrice aussi subite que bâclée. En l'occurrence, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'accord signé en juin n'a pas empêché les combats de reprendre dans le Kivu, mais les États-Unis ont néanmoins tiré parti de cet accord, adossé à de futurs accords commerciaux et à des tentatives de remporter des contrats nouveaux dans les mines congolaises.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Cobalt s'engage à venir ici au Congo, investir dans la numérisation des données géologiques. Et deuxième volet, c'est l'exploration, en utilisant la technologie assez avancée, notamment l'intelligence artificielle. Et nous espérons en fait pouvoir découvrir des gisements miniers qui pourront être explorés dans le futur.
Benjamin Katabuka, le PDG de la filiale congolaise de l'entreprise états-unienne Cobalt, qui annonçait ici en juillet le contrat signé avec Kinshasa. Les États-Unis s'en sont félicités, mais savent que leur retard sur la Chine reste abyssal. Bonjour Christophe Lebec.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste en charge des questions minières à Africa Intelligence. Quelles ressources congolaises intéressent en particulier les États-Unis ?
En particulier, ce sont les minerais critiques et encore plus les minerais de batterie, donc qui servent à fabriquer les batteries qui sont dans les véhicules électriques, qui les intéressent. Et là, en cette matière, ils partent de très loin par rapport à la Chine, qui domine totalement cette filière.
Et c'est ce qu'ils ont en tête.
C'est ce qu'ils ont en tête. Donald Trump espère qu'avec cet accord, ils puissent renverser la table et rattraper le retard énorme qu'ils ont sur les Chinois.
Donc sécuriser l'approvisionnement en minerais, c'est un premier objectif. Développer le raffinage et la transformation sur place aussi, c'est quelque chose qui est dans les têtes en République démocratique du Congo et au Rwanda. Non, vous êtes dubitatif.
À voir où se passe la transformation. La question, c'est une filière, donc il y a du raffinage. Ensuite, il y a la fabrication des éléments de batterie. Donc où est-ce que ça va se passer ? Tout reste à faire. Il y a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup d'infrastructures pour ça. Donc est-ce que ça va être en RDC, aux États-Unis ?
On ne sait pas encore. Les entreprises états-uniennes ne sont pas très bien placées en République démocratique du Congo, pas seulement parce que la Chine a pris beaucoup de place, mais aussi parce que les sociétés occidentales sont australiennes, elles sont canadiennes. L'américaine Freeport-McMoRan, qui avait revendu en 2016 une mine à la Chine, s'en mord les doigts aujourd'hui.
C'est-à-dire que les États-Unis sont pas vraiment un pays minier ou ne le sont plus. C'est-à-dire que les Canadiens, les Australiens, les Britanniques sont bien devant et les Chinois aujourd'hui en RDC. Freeport-McMoRan, qui était une des premières sociétés de cuivre au monde, a revendu le gisement de Teke Fungurume qui est au Katanga en RDC en 2016 et l'a revendu à un Chinois, China Moly. On parlait tout à l'heure d'Alpha Mine. Donc il y a un retard manifeste. Les compétences ne sont pas encore là. Et c'est vrai qu'il existe des fabricants de véhicules électriques majeurs comme Tesla, mais en matière minière et industrielle et sur la filière batterie, ils sont très loin. Plus de la moitié des batteries de véhicules électriques provient de deux géants chinois, BYD et CATL, et qui sont pas prêts de lâcher l'affaire.
Est-ce qu'en conséquence, les États-Unis ont peu de réseaux, peu de contacts, éventuellement aussi dans l'administration congolaise, quand il s'agit de parler mine et de voir où sont les intérêts états-uniens et de les défendre?
C'est-à-dire que sous Joe Biden déjà qui avait commencé à subventionner un redémarrage ou un démarrage de la filière batterie, on a vu un certain nombre d'acteurs américains arriver en RDC, tenter de nouer des contrats avec des groupes congolais. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a rien de concret qui en est sorti. Il y avait le fonds américain Delphos qui est venu à Kinshasa pour nouer un accord avec une société congolaise pour une raffinerie. Rien n'est sorti. Il y a eu des annonces en grande pompe, notamment en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies avec le président Tshisekedi, mais 350 millions de dollars d'investissement aujourd'hui, rien. Donc on est loin encore de quelque chose. Quant à Cobold, qui est une société intéressante, soutenue notamment par Bill Gates et Jeff Bezos, avant de faire émerger un projet minier, il peut se passer 10 ans, 15 ans, et là on parle d'exploration, c'est-à-dire d'aller voir ce qu'il y a dans le sous-sol. Donc on est encore très loin.
Parlez-nous en quelques mots de ces deux hommes notamment dont on croise le nom régulièrement quand on lit notamment vos enquêtes, Christophe Lebec, mais quand on s'intéresse aux intérêts états-uniens dans les mines congolaises, Ben Black et Steve Feinberg.
C'est-à-dire que pour tenter de rattraper son retard sur la Chine, Donald Trump a nommé ces hommes à la tête de différentes agences au Département d'État. Donc Steve Feinberg, c'est le numéro 2 du Pentagone, et il est chargé justement de cette question de l'approvisionnement en métaux critiques. Donc il y a aussi les terres rares, hein, on parle des minerais de batterie, mais il y a aussi les terres rares. Donc lui est chargé de cette stratégie-là, mais c'est un profil très financier, c'est une figure du capital investissement à New York. Il dirige le fonds Cerberus. Voilà, Ben Black, c'est un peu la même chose. C'est le fils de Leon Black, qui est aussi une figure du capital investissement. Il a bossé chez Goldman Sachs. Et lui, il a été nommé à la tête de la Development Finance Corporation, la DFC, qui est cette agence fondée sous le premier mandat de Donald Trump, pour notamment financer des projets dans le domaine des métaux critiques. Il avait commencé déjà à le faire sous Joe Biden. Donc il a nommé ces hommes, sauf que ces hommes ont un profil de financier. C'est pas des industriels, c'est pas des miniers. Il y a assez peu de sociétés américaines qui sont compétentes sur le sujet. Il y a une figure américaine qui est bien connue en RDC, c'est Robert Friedland, qui est patron de la société Ivanhoe Mines, qui lui a un énorme projet de cuivre et cobalt au Katanga, là encore, le projet de Kamoa-Kakula. Et lui, il est un peu en dehors du scope dans la mesure où il vend principalement à la Chine. Ses premiers clients sont à la Chine, donc du coup, ça le met aussi en dehors de cette stratégie de Donald Trump d'aller soutenir des sociétés américaines qui sont déliées de Pékin et qui vont approvisionner en priorité les États-Unis.
Cet accord ou ce contrat, ce permis d'exploitation qu'a obtenu donc l'entreprise états-unienne Cobold, soutenue par Bill Gates et Jeff Bezos cet été pour la mine de lithium de Manono dans la province du Tanganyika dans le sud-est, dans quelle mesure l'État congolais trouve que c'est une bonne idée, une bonne nouvelle, puisqu'il parle de cet accord comme d'un partenariat stratégique visant à ouvrir la voie aux investissements américains dans le secteur. Pourquoi la République démocratique du Congo fait-elle à ce point aujourd'hui confiance, appel aux États-Unis pour ses propres ressources?
Disons que ils avaient besoin de ce soutien américain pour les questions de sécurité à l'Est. Et comme Trump est dans une logique transactionnelle, ce qu'ils ont, la RDC, enfin tous les géologues du monde le savent, c'est son sous-sol est extrêmement riche, particulièrement en métaux critiques. Plus de 60% du cobalt qui va dans les batteries est produit en RDC aujourd'hui. Je crois qu'ils ont plus de 80% des réserves. Et donc, du coup, ils mettent en avant ce qu'ils peuvent dans un marchandage avec Trump, parce que la diplomatie américaine, Onnes Fort le disait tout à l'heure, il fonctionne comme ça aujourd'hui. On est avec c'est un discours très marchand, très je te donne ça, tu me donnes ça. Et donc c'est ce qu'ils ont. Après, là encore, l'accord avec Cobold, il est extrêmement flou. C'est-à-dire c'est un traité de coopération, on parle d'exploration,
d'emplois très rémunérés qui profiteront aux Congolais, mais on ne sait pas de quels emplois il s'agit.
Et on parle de lithium, contrairement au cobalt, le lithium est beaucoup plus réparti sur la terre que voilà. Et donc du coup, il va falloir que mettre en branle tout ça, et ça va être compliqué.
On parle d'un potentiel, comme on dit, de 132 millions de tonnes de lithium, d'une capacité de production de 4 millions et demi de tonnes par an pour ce seul site. Mais on rappelle qu'il n'y a aucune mine mines de lithium en activité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Peut-être un tout dernier mot, Christophe Lebec, puisque vous avez évoqué le cuivre. Cette entreprise états-unienne Cobold opère plus au sud encore à la frontière avec la Zambie dans la zone appelée Copper Belt, cette ceinture de cuivre qui est scrutée de près par les États-Unis, qui cofinance avec l'Union européenne le corridor de Lobito, une ligne ferroviaire qui est destinée à relier les mines de la région au port angolais de Lobito, donc sur l'océan Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette ligne ferroviaire ?
C'est un projet qui est en gestation depuis plusieurs années d'exporter tout le cuivre de notamment de la région de Kolwezi qui là où on trouve les premières mines de la RDC
vraiment dans le sud
dans le sud du pays. La ceinture de cuivre donc c'est à l'ouest de la ceinture de cuivre et donc il y a cette ligne ferroviaire qui a été réhabilitée avec le soutien notamment du trader suisse Trafigura et un soutien financier américain et européen. Et donc là, l'américain Robert Friedland a commencé à exporter du minerai de cuivre à travers cette ligne ferroviaire. Donc ça peut être un moyen d'accélérer l'exportation vers le versant ouest du continent et donc de là vers les États-Unis. Donc c'est un sujet stratégique. La DFC dont on parlait tout à l'heure a commencé à financer ça. Donc c'est une voie choisie par l'administration qui poursuit celle de Biden là-dessus. Quoi.
Voilà, qui poursuit celle de Joe Biden. Le port de Lobito sur l'océan Atlantique en Angola a été inauguré il y a un an seulement, juillet 2024, quand un vraquier y a amarré pour la première fois. Il venait décharger plus de 40 000 tonnes de soufre qui servira à l'extraction minière de cuivre. Cette ligne ferroviaire, elle fait 1300 km jusqu'à la cité minière congolaise de Kolwezi. Merci Christophe Lebec, vous restez avec nous. Oui, Sonia Rollet, juste pour réagir sur ce que vient de dire Christophe Lebec, c'était un projet aussi porté par Joe Biden, Donald Trump, et dans une amplification peut-être, mais en tout cas, il reste dans la lignée de ses prédécesseurs, y compris dans cette région.
Oui, alors de cette manière-là, d'ailleurs, même sur le fait d'être au milieu des relations entre le Rwanda et le Congo, puisque l'administration Biden soutenait en fait le processus en Angola et était en soutien de ce processus angolais à l'époque, donc pas au devant de la scène, mais plutôt derrière, que ça soit avec des images de drones et d'autres choses, et il le disait assez régulièrement. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie minerai qui est là, il y a le fait que, oui, ils se sont rendus compte à un moment que le fait que les entreprises américaines aient abandonné le Congo, puisque ce sont des entreprises américaines pour l'essentiel qui ont vendu aux Chinois dans les années 2000, donc c'est aussi pour ça que voilà, ils se retrouvent aujourd'hui à essayer de repartir en arrière.
Onesforce et Matumba, une toute petite question pour conclure. La République démocratique du Congo, elle, qu'est-ce qu'elle peut en espérer? Qu'est-ce qu'elle a à y gagner?
Bon, écoutez, la République démocratique du Congo, pour qu'elle espère y gagner quoi que ce soit, il faut qu'elle soit à l'initiative. Parce que ce qui se passe pour le moment, c'est que le Congo est plutôt à la remorque et suit le courant de médiations, de tractations, de contrats sans trop avoir l'initiative. Et il est de notoriété publique qu'en cette matière, les Congolais ne sont pas de grands experts de négociation, surtout dans des contrats complexes comme les contrats miniers.
Merci
Donc,
beaucoup.
Pour qu'ils puissent gagner quelque chose, il faut qu'ils reviennent à la manœuvre.
À l'initiative. Merci Onesforce et Matumba d'avoir été avec nous, chercheurs seniors pour International Crisis Group. Vous étiez depuis Nairobi au Kenya. Merci Sonia Rollet, journaliste indépendante qui travaillait notamment pour l'agence Reuters. Vous êtes ancienne correspondante en République démocratique du Congo. Et merci beaucoup Christophe Lebec, journaliste en charge des questions minières à Africa Intelligence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et décidément, nous continuons à parler de Donald Trump. Le président des États-Unis a lancé une grande opération de la police fédérale de l'immigration à Chicago, Catherine.
Et le président américain menace d'y déployer des militaires de la garde nationale, comme il l'a fait dans d'autres villes démocrates à Los Angeles et Washington, rappelle le Chicago Sun-Times. Donald Trump, toujours plus désespérant, menace de faire la guerre à l'une de ces villes, dénonce le HuffPost, et il met donc ses menaces à exécution. Ce week-end, il avait partagé une image créée par l'intelligence artificielle, le représentant devant les gratte-ciels de la troisième ville des États-Unis, avec des hélicoptères en arrière-plan, des flammes et l'inscription « Chipocalypse Now » relève le New York Times et Radio-Canada, avec en légende cette phrase « J'adore l'odeur des expulsions le matin », référence, vous l'aurez compris, à J'aime l'odeur du napalm au petit matin, la tirade mémorable de Robert Duvall dans Apocalypse Now devant la caméra de Francis Ford Coppola qui a frappé les esprits dans le rôle d'un lieutenant-colonel américain insensible au sort des Vietnamiens pendant la guerre. Pas franchement clairvoyant puisqu'il dit aussi sentir la victoire dans cette tirade très célèbre. Aujourd'hui, Donald Trump et ses alliés ne semblent pas avoir vu le film de Coppola ni savoir qui sont les méchants, ironise MSNBC. Le département de la défense vient de changer de nom et Donald Trump a également écrit ce week-end que Chicago est sur le point de découvrir pourquoi on l'appelle le département de la guerre. Et il ne faut pas prendre ses propos à la légère, prévient le Los Angeles Times. Que dire aussi du nom de l'opération anti-immigration lancée hier à Chicago, Midway Blitz? Est-ce une référence aux stratégies nazies pendant la Seconde Guerre mondiale? En tout cas, no nazis, no kings, pas de nazis, pas de rois, c'est ce qu'ont scandé des manifestants à Chicago. No Trump, no troops, non à Trump et non aux troupes, rapporte le magazine de gauche In These Times, édité à Chicago. Ce magazine dénonce également l'autoritarisme de la Maison-Blanche qui cache, selon ce titre, sa xénophobie, son racisme, derrière la lutte contre la criminalité pour cibler des étrangers. De graves conséquences en tout cas pour les immigrés latinos, légaux ou clandestins qui n'osent plus sortir de chez eux, raconte le Chicago Sun-Times et le gouverneur démocrate de l'Illinois, J.B. Pritzker. Donald Trump aime assimiler les immigrés à des criminels, mais c'est faux. La majorité des immigrés ne sont pas des criminels, explique sur la chaîne télévisée NBC 5 le gouverneur démocrate de l'Illinois. Les immigrés, dit-il, sont venus aux États-Unis pour travailler, mais aujourd'hui, ils n'osent même plus emmener leurs enfants à l'école, alors que des centaines d'agents de l'ICE, de la police de l'immigration, se déploient sur le terrain. Et de dénoncer aussi l'absence d'aide en amont et en concertation avec Chicago pour faire baisser la criminalité en général. Pas d'aide pour les programmes de prévention qui emploient par exemple d'anciens membres de gangs pour désamorcer des conflits, note le magazine In These Times. Est-ce que Donald Trump va aussi envoyer la garde nationale à la Nouvelle-Orléans, à Memphis, où le taux d'homicide est le plus élevé aux États-Unis, se demande le Los Angeles Times. Pour l'instant, ces villes républicaines sont épargnées, celles démocrates sont ciblées. Et alors que la Cour suprême vient d'autoriser les contrôles aux faciès, alerte le New York Times, pour cibler les personnes qui semblent être immigrées, la résistance s'organise. Une application pour iPhone, IceBlock, permet depuis le printemps dernier de signaler la présence d'agents de l'immigration. Des enseignants à Chicago comptent, eux, résister et protéger leurs élèves des descentes anti-immigration. C'est ce que rapporte NBC 5 à Chicago.
Et pour finir, Catherine, vous nous emmenez à la découverte d'un lieu touristique insolite en Corée du Nord.
Une station balnéaire, théâtre de la lune de miel entre Pyongyang et Moscou. Car sur 5 kilomètres le long de la mer du Japon, on ne trouve pas que des transats classiques et des parasols bleus et blancs, non. Dans le complexe touristique de Wonsan Kalma, qui comprend un parc aquatique, un centre de jeu, un cinéma pour le bien-être du peuple, comme l'explique l'agence officielle nord-coréenne KCNA et le Pyongyang Times. Dans ce pays donc verrouillé sur le plan de l'information, c'est par des images satellites et une analyse photo à partir des réseaux sociaux que le journal japonais Nikkei Asia a pu voir des portions de plage destinées aux visiteurs russes. Une station balnéaire où Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, a également accueilli en juillet dernier le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, une initiative inhabituelle, souligne Nikkei Asia, puisque les responsables étrangers sont plus souvent accueillis dans la capitale Pyongyang. C'est dire si Kim Jong-un tient au développement de cette station balnéaire de Wonsan, des fonds russes russes ont d'ailleurs pu être utilisés, affirme dans les colonnes de Nikkei Asia, un spécialiste de la Corée du Nord. Alors que Pyongyang a envoyé plus de 10 000 soldats combattre aux côtés de la Russie dans sa guerre en Ukraine, rappelle le Guardian. Selon CNN, il pourrait bien être 25 000 soldats supplémentaires à être envoyés au front dans les mois à venir pour aider Moscou. La station balnéaire de Wonsan sert, elle, donc de double vitrine, notamment vers la Russie, combinant tourisme et fonctions militaires, avec des avions de chasse stationnés tout près des plages.
Et nous parlerons justement de la Corée du Nord dans Culture Monde demain. Merci beaucoup Catherine Dutu.